I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Jean-Christophe Briançon, Grégoire Leménager et François Angelier, qu'on a déjà entendu pousser un cri. Rassurez-vous, tout va bien. Nous parlerons ensemble d'un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates, Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, Souvenir de l'avenir de Sirius Vade, et puis il y aura un coup de cœur de Grégoire Leménager pour Giono Furioso d'Emmanuel Lambert. Et nous ouvrons cette dispute avec un livre des martyrs américains de Joyce Carol Oates, publié chez Philippe Ray, éditeur, dans une traduction de Claude Seban, s'attaquant une fois encore à un sujet de société majeur, le droit à l'avortement. Joyce Carol Oates regarde l'Amérique au fond des esprits pour chercher peut-être ce qu'il reste d'espoir en l'humanité. On écoute un extrait de ce livre, lu ici par Boris Pinault.
Il avait sauvé des vies, la vie de jeunes filles et de femmes. Des filles qui avaient essayé d'avorter elles-mêmes par honte. Des filles qui étaient arrivées à terme en semblant ne pas savoir qu'elles étaient enceintes et qui même en plein accouchement hurlaient leur déni. Des femmes enceintes qui n'étaient pas allées voir un médecin, bien que sachant ou devinant que le fœtus était mort et qu'elle ne portait pas la vie, mais la mort. Des filles qui cachaient leur grossesse sous des corsets, qui aplatissaient leurs seins gros de lait contre leur poitrine. On se serait cru en 1955 ou en 1935. On n'imaginerait pas que des situations aussi terribles existent encore. Par ignorance, par intolérance religieuse, par désir d'être bonne et de paraître bonne. Certaines d'entre elles étaient pentecôtistes. Il y a eu 2 ou 3 Amish dans l'ouest rural du Michigan, une poignée de catholiques dans la région de Détroit. Certaines des très jeunes filles avaient été engrossées par des beaux-pères ou des pères, des oncles, des frères ou des cousins plus âgés. Elles étaient trop terrifiées pour le dire. Elles ne savaient pas. Elles ne se souvenaient pas. Dans le centre de conseil grossesse de Port Huron arriva, juste avant la fermeture, une mère désespérée, accompagnée de sa fille de 13 ans qui était enceinte de 3 mois, un petit ventre rond et dur bien visible sous sa culotte de coton blanc. La mère l'écouta à peine quand il essaya de lui expliquer. « C'est au moins un viol sur mineur. Votre fille est trop jeune pour consentir à un acte sexuel. » Elle grimaça et rougit en entendant le médecin parler aussi crûment, et la fille gardait les yeux fixés sur le carrelage, hébétée et muette, paralysée de honte, la peau pâle, des cils et des sourcils pâles, des cheveux d'un blond presque blanc et des yeux d'albinos, si bien que Gus se demanda si elle n'était pas plus ou moins aveugle. Son regard ne semblait pas se tourner vers lui, même quand il s'adressait à elle gentiment de son ton paternel. « Est-ce une handicapée mentale ?» se demanda-t-il. « Mon Dieu, ni l'une ni l'autre ne savent ce qui lui est arrivé, » se dit-il avec fureur. Dans leur religion, pour autant qu'ils la comprennent, il importait peu qu'une grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste, l'avortement était contre la loi divine. L'avortement était un péché, un crime et une honte parce que c'était le massacre d'innocents. On ne prononçait pas le mot à haute voix. En implorant l'aide du docteur Voorhis dans un murmure précipité, la mère ne l'avait pas prononcé une seule fois.
C'était donc un extrait d'un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates. La traduction est de Claude Seban chez Philippe Ray. Premières impressions sur ce nouveau livre de la romancière américaine, Jean-Christophe Briançon.
Eh bien enfin un livre marquant de Joyce Carol Oates.
Oula, on va pas être d'accord vous et moi, enfin c'est pas sur celui-là. Grégoire Leménager.
C'est un grand roman sur le fanatisme, la folie américaine, peut-être même sur Éric Zemmour, j'essaierai de le démontrer. C'est un grand roman, et par moments je me suis demandé si c'était pas un peu trop grand pour moi. Mais,
François Angelier.
Entre le marteau de Dieu et l'enclume de la loi, quelle place pour le citoyen ordinaire ?
Beaucoup de questions après ce premier tour de table. Il faut peut-être un tout petit peu expliquer davantage, Jean-Christophe Brianchon, de quoi il s'agit, parce que tout commence sur un meurtre.
Voilà, c'est effectivement une histoire sordide mais assez simple, celle de Luther Dunphy. Je ne m'appesantis pas sur les prononciations, hein, dont je suis pas certain, mais en tout cas, voilà, Luther Dunphy qui est un Américain fondamentaliste religieux, militant anti-avortement, qui un jour tire sur un médecin pratiquant des avortements, qui est le docteur Augustus Vorès. Mmh. Donc lui tire dessus, ainsi que sur son assistant, un matin où il rentre dans la clinique dans laquelle il opère, et donc le médecin en question mourra des suites de ses blessures. Voilà, le parti pris, enfin l'histoire de départ est assez simple et ne résume absolument pas la complexité donc de ce livre, qui va nous permettre dans un premier temps de comprendre l'avant du meurtre, puis le procès qui résultera de ce meurtre, et puis ensuite et enfin ce qui découlera de ce meurtre, de cette histoire, la vie bouleversée de la famille du docteur, mais aussi du meurtrier, et sur la fin en particulier nous suivrons la vie de la fille du meurtrier dont je ne me rappelle plus le prénom.
Donc voilà, et celle aussi de
Dawn.
De la victime, j'arrive à trouver.
Voilà. Et donc c'est une construction très exhaustive qui va nous permettre d'aller dans tous les coins et recoins de l'histoire des personnages, des individus et donc du pays dans lequel ils s'inscrivent, puisque à décrire la vie de ces individus et la façon dont cet événement a pu les bouleverser, finalement on sort petit à petit au fil des pages de ce livre, qui est un livre assez épais, hein, faut le dire, ça fait environ 900 pages. On sort petit à petit de la chair des personnages pour entrer dans les contours des frontières de ce pays et voir comment et pourquoi ce qui s'est passé a pu se passer. C'est finalement un non-lieu quasiment pour un auteur de faire ça, de vouloir décrire le pays dans lequel ses personnages s'inscrivent. Ici, la prouesse, c'est que Joyce Carol Oates, selon moi, y parvient.
On verra pourquoi celui-là, plus que d'autres de cet auteur, vous a convaincu. Grégoire Leménager, cette dispute consacrée à un livre de martyrs américains.
Oui, mais la construction est extraordinaire. Elle est un peu trop douée, Joyce Carol Oates.
C'est ce qu'on dit à chaque fois, parce qu'il y a trois livres qui arrivent chaque année. On se dit, bon, il y en aura un de mauvais. À mon sens, ça n'arrive quasiment jamais, quel que soit le registre dans lequel elle s'inscrit. Pardon, Grégoire.
C'est vrai que c'est une grande conteuse, je pense. C'est-à-dire que là, effectivement, la construction, elle est intéressante. C'est que dès le début, dès les premières pages, on a l'assassinat de ce malheureux médecin par ce pauvre type qui se prend pour un soldat de Dieu. Et puis après, c'est comme si elle avait jeté un pavé dans une mare, quoi. Et puis elle examine par cercle concentrique, elle part des principaux personnages pour voir comment cet événement-là affecte les vies d'un peu tous les personnages. Donc, comment ça affecte la vie du meurtrier, comment ça a affecté la vie de la victime, naturellement. Du coup, il y a un système de flashback qui fait qu'elle revient sur ces personnages-là, puis après, elle passe aux épouses respectives de ces deux personnages, puis à leurs enfants, etc. Et elle voit comment l'événement, après, sur 20 ans, ou sur 15 ans, continue à poursuivre les survivants, etc. Et ça, bon, c'est assez fort. Ensuite, je trouve que c'est une très grande romancière, parce que son point de vue à elle sur le droit des femmes à disposer de leur corps et donc de pratiquer l'IVG, on sent que pour elle, il n'y a pas tellement de débat intérieur là-dessus. En revanche, et c'est là qu'elle est une grande romancière, c'est qu'elle va au plus près des sensations et des cheminements intellectuels, souvent un peu tordus d'ailleurs, de gens qui ne pensent pas du tout comme elle. Et ça introduit quand même du doute, de la complexité, de la polyphonie dans le livre. Et ça c'est assez fort.
Mais quand vous dites tordu, Grégoire, pardon, je vous interromps, il ne faudrait pas que nos auditrices et auditeurs pensent que Joyce Carol veut absolument montrer qu'ils sont tordus, ces raisonnements. Justement, elle est beaucoup plus subtile et presque empathique aussi avec ses personnages, enfin, dans
une certaine mesure. Elle est très empathique avec
ses
personnages.
Elle ne les montre pas comme forcément tordus.
Non, non, tordus, c'est l'appréciation du lecteur, en l'occurrence, là, c'était moi.
Voilà.
Non, et quelquefois, en lisant ses raisonnements, je me dis, c'est quand même un peu tordu.
Oui,
mais,
j'entends bien, mais je voulais préciser ça.
Mais
elle-même,
n'adopte pas une position de surplomb.
Voilà, c'est ça qui est important.
C'est qu'à la fois, elle n'adopte pas une position de surplomb, et pour autant, son point de vue à elle n'est pas ambigu. Et ça, je ne sais pas très bien comment elle fait, mais c'est assez fort. Et puis voilà. Alors après, je mets un bémol quand même pour les besoins de la dispute et aussi parce que c'est quand même une lecture absolument épuisante.
Ça, c'est
quand
vrai.
Même très très long. Mmh. Et honnêtement, très honnêtement, je suis convaincu que il y a des effets de ralenti, de ressassement qui nous permettent justement d'accéder à la conscience de certains personnages, etc. Mais que quelquefois, elle aurait pu prendre le temps de relire, de contracter un peu tout ça, de ramasser un peu tout ça, et le livre n'en aurait pas souffert, et moi, j'aurais moins souffert, je pense. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très éprouvant à lire ça sur la longueur, et il y a un tunnel de 50 pages là, il y a une des filles qui va faire de la boxe pendant 50 pages, on a ses entraînements de boxe et ses combats de boxe.
Vous savez qu'elle est passionnée par la boxe, c'est une de ses passions.
Je suis ravi qu'elle soit passionnée par la boxe. Non, mais il y a des choses comme ça qui me semblent un peu gratuites, un peu superflues. Il y a quand même beaucoup de pages où on se dit non mais ça, ok, j'ai compris quoi. Elle enfonce le clou, et elle ressasse et ça ne progresse pas tellement.
Mais au rythme où elle écrit, vous imaginez bien qu'elle n'a pas le temps de se relire.
Mais c'est un peu le reproche que je lui fais. C'est-à-dire que
je plaisante à peine en disant ça, parce que c'est vrai que sa production est phénoménale.
Oui, mais c'est quelquefois plus long de faire court. Et il faudrait qu'elle prenne le temps de faire un peu plus court, je trouve.
On transmet le message à Joyce. François Angelier.
Alors moi, j'ai vraiment été estomaqué, soufflé par ce livre. Je pense que c'est un très grand livre. D'abord parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un livre qui a, Joyce Carol Oates, la capacité de dominer complètement les deux, la problématique historique et de rendre compte de l'intérieur, je dirais, des deux camps qui s'affrontent. Mmh. Et ce qu'elle nous montre d'abord, c'est qu'en définitive, depuis les origines, il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique qui veut être fidèle au père pèlerin, c'est-à-dire la Bible et un fusil. C'est une Amérique de la foi, de la croyance, de la fidélité à la Bible, bon, qui est un certain type d'Amérique et qui est là représenté par l'assassin Luther Dumphy avec son fusil Mossberg, qui est un white trash, c'est-à-dire qui est un type qui vit dans la pauvreté, l'exclusion, la marginalité et qui considère que la Bible est l'Église à laquelle il appartient est le seul endroit où on le regarde à peu près comme quelqu'un digne d'être regardé. Alors ça c'est un aspect. Et l'autre, il y a effectivement la gauche libérale américaine qui est représenté par le docteur Voris, qui est la victime, et on voit s'affronter véritablement ces deux clans, et elle montre bien que ça n'est pas là. Si la querelle sur l'autorisation ou non de l'avortement, je dirais le noyau historique et le déclencheur du roman, c'est bien plus une sorte d'histoire globale de l'Amérique qui nous est offerte. Donc ça, c'est déjà très impressionnant. Et là où elle est très forte, c'est qu'à aucun moment, justement, elle trahit ses adhésions idéologiques. Bon, on devine qu'elle est plutôt du côté du docteur Voris. On le sait. Mais elle a une capacité, de par son génie romanesque, à rentrer d'abord dans le mental. Et justement, je pense que la question des longueurs est une manière pour le lecteur de partager le côté insupportable et insoutenable de la vie des protagonistes. J'en veux pour exemple à la fin, où, on ne va pas trop en dire, il y a un dialogue très long entre la fille d'un des deux qui est devenue boxeuse. C'est la seule manière qu'elle a trouvé de s'en sortir. D'ailleurs, comme les Noirs américains, ce qui montre bien que le statut social est équivalent. Et puis, donc, elle est questionnée, elle est interviewée par
quelqu'un.
Et là, c'est très, très, très long. Et cette longueur est effectivement insupportable. Parce que ça dure au moins 10-15 pages, cet entretien, où l'une essaie de manière assez intelligente et très perverse de contrôler l'autre, de la pousser un peu vers le ravin psychologique. Et ça fait rentrer vraiment dans une situation insoutenable qui est celle des personnages.
Donc j'ai trouvé ça...
Et c'est véritablement un roman pour ça. Et alors effectivement, avec des moments tout tout à fait extraordinaire, notamment chez l'assassin, où elle arrive à rendre compte de cette espèce de cogitation paranoïaque et permanente de cet homme qui est là comme ça, qui naque son discours intérieur, quoi. Très impressionnant.
Jean-Christophe Brianchon, alors enfin, disiez-vous, en ouverture, un grand roman de Joyce Carol Oates. Quel culot!
Non, elle en a écrit beaucoup, des grands romans, que j'ai aimés infiniment. J'ai un souvenir encore, un souvenir définitif et immense de Blonde, entre autres, voilà, qui sont des très grands romans pour moi. Ceci étant dit, ces dernières années, j'ai trouvé que la production s'épaississant de plus en plus, parfois les livres faisaient office de, on va dire, de laboratoire pour une femme qui avait envie d'épuiser un petit peu tous les sujets sociétaux qui pouvaient parcourir son pays.
Lisez Fille Noire, Fille Blanche, lisez Mud Woman, lisez... Enfin, il y en a beaucoup dans les récents, je vous assure...
Et qui sont des romans évidemment que peu de gens seraient capables d'écrire, mais qui à l'échelle de ce qu'elle est capable d'écrire, à mon sens, n'était peut-être pas à son niveau à elle. Ici, elle retrouve le niveau qui est le sien, qui est celui d'une immense romancière. Et je dirais même que je ne suis pas tellement d'accord avec les quelques petites critiques ou réserves qui ont été émises par mes confrères, parce que ce soit sur la longueur et sur le ressassement, je trouvais que ça pouvait créer des choses formidables, y compris dans l'effet de style et la fêterie que ça peut supposer, puisque par le ressassement et cette longueur, elle nous permet aussi de nous montrer son talent à pouvoir s'insérer dans tous les styles et tous les univers, puisque au travers des portraits successifs qui seront faits de chacune des personnes et de chacune des situations dans lesquelles ces personnes pourront être, elle va elle-même se mettre à chaque fois dans une peau différente et nous montrer que ce soit dans la peau d'une boxeuse, d'un homme,
d'un
fugiteur new-yorkais,
quel que soit l'endroit et la personne, elle peut adapter son style et sa pensée. Donc ça nous montre ça, et puis ça nous permet aussi à nous lecteurs d'entrer dans la folie de l'individualisme qui est leur, ce qui rend aussi ce livre encore plus grand, puisque à montrer les affres d'un pays, elle ne fait finalement que de montrer des individus, et ça c'est très fort, je trouve, quand on veut montrer l'état des États-Unis, mais ça pourrait être ailleurs, mais en particulier des États-Unis, ici de montrer l'état de folie commune qui est celui d'un pays à travers le prisme de ses individus et uniquement de l'individu, puisque jamais ou très rarement ces individus ne sont reliés concrètement dans leur quotidien à une communauté, ça c'est très fort.
Grégoire Leménager, vous avez évoqué un nom qu'on entend trop en ouverture de cette dispute, mais alors si vous avez une bonne raison de le prononcer, ce nom.
Mais je crois que j'ai une bonne raison. Bon, d'abord, sur le ressassement, moi j'ai rien contre le ressassement, il y a des moments quand même vraiment où ça s'apparente à une forme de piétinement, de surplace, et c'est un peu comme un
film se réconciliera
qui
pas
abuserait de ralenti. Du ralenti pour dramatiser, etc., pour émouvoir, je trouve. C'est un procédé dont elle abuse un peu. En revanche, moi, alors, ce que j'ai vraiment, vraiment trouvé magistral, ce sont des personnages qui apparaissent assez peu, mais qui apparaissent quand même, et qui sont les idéologues pousses au crime, qui ont la parole à la télévision, qui quelquefois font de la politique, qui ont la parole dans certaines églises, et qui tiennent un discours anti-avortement, donc extrêmement musclé, en s'appuyant sur la Bible, etc., et qui en même temps, au moment du procès, vont apparaître en disant « Naturellement, nous sommes en accord avec toutes ces idées-là, etc., mais nous n'encourageons pas à la violence. » Et ça, elle le fait avec une finesse qui est absolument remarquable et qui rappelle, j'ai cité ce nom pour faire le pitre, mais qui rappelle naturellement beaucoup de discours très, très violents qui peuvent être tenus et qui chez des pauvres types comme ce pauvre type, parce que c'est un pauvre type l'assassin, ont des effets peuvent avoir des effets terribles, quoi.
François Angelier, pour
conclure. Oui, c'est la fameuse intervention du révérend Stockard au procès, qui essaie à la fois de se sauver des pattes en déclarant qu'il n'est absolument pas favorable au recours à la violence et évidemment à l'homicide, mais que néanmoins, certains l'ont bien cherché. La manière qu'elle a de faire danser la rhétorique d'un pied sur l'autre. Et alors là, justement, la longueur joue dans la
là, ça marche.
Bon, lisez par vous-même, on vous le conseille quand même très 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 grandement autour de cette table, un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates chez Philippe Ray. C'est dans une traduction de Claude Seban. Nous allons parler des livres de Santiago Amigorena, Cyril Svet, et Grégoire Le Ménager va nous parler du livre d'Emmanuel Lambert.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, publié chez POL, pour une fois, je vais lire en introduction la quatrième de couverture qui résume assez bien la chose. Il y est écrit, Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita Zapir 5 ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés, ils ont eu 3 enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu le mien, nous dit et nous prévient Santiago Amigorena, qui poursuit ici avec le ghetto intérieur un long travail autobiographique entamé depuis plus de 20 ans maintenant avec une enfance laconique. On va écouter un extrait de ce livre, Le ghetto intérieur, lu par David Dana.
À partir de ce triste mois de mars 1941, Vicente allait éprouver une double haine de lui-même. Il allait se détester parce qu'il s'était senti polonais et il allait se détester davantage encore parce qu'il avait voulu être allemand. Il allait éprouver une double haine de lui-même que jamais le fait de se sentir juif n'allait soulager. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été enfant, adulte, polonais, soldat, officier, étudiant, marié, père, argentin, vendeur de meubles, mais jamais juif. Pourquoi je n'ai jamais été juif comme je le suis aujourd'hui? Aujourd'hui, où je ne suis plus que ça. Comme tous les juifs, Vicente avait pensé qu'il était beaucoup de choses, jusqu'à ce que les nazis lui démontrent que ce qui le définissait était une seule chose. Être juif. À Varsovie, Vicente avait fait partie de cette bourgeoisie éclairée qui en avait eu assez d'être juive, si être juif signifiait se vêtir toujours de noir et être un peu plus archaïque que son voisin. Être juif, pour lui, n'avait jamais été si important. Et pourtant, être juif, soudain, était devenu la seule chose qui importait. Mais pourquoi je suis juif? Pourquoi aujourd'hui, je ne suis que ça? Pourquoi je ne peux pas être juif et continuer d'être tout ce que j'étais auparavant? L'une des choses les plus terribles de l'antisémitisme est de ne pas permettre à certains hommes et à certaines femmes de cesser de se penser comme juifs. C'est de les confiner dans cette identité au-delà de leur volonté. C'est de décider définitivement qui ils sont. Vicente ne sentait pas qu'on lui avait donné quelque chose, qu'on avait ouvert son esprit, qu'on l'avait éclairé sur ce qu'il était ou sur qui il était. Il ne se disait pas « Ah, au moins maintenant, je sais que je suis juif ». Vicente, comme beaucoup de juifs, commençait simplement de comprendre que l'antisémitisme a besoin de sémites pour exister. Il commençait de se rendre compte que si un antisémite se définit en l'étant, il ne peut pas tolérer qu'un sémite ne se définisse pas lui-même parce qu'il l'est.
Le ghetto intérieur de Santiago Amigorena chez POL. Premier sentiment sur ce livre, Grégoire Le Ménager.
Premier sentiment, c'est qu'on a beau connaître un peu quand même l'histoire de la Shoah. Moi, je ne l'avais jamais lu comme ça, vu d'aussi loin, vu d'Argentine. Cette mise à distance, enfin, c'est créer quelque chose qui est absolument bouleversant, je trouve.
François Angelier.
Oui, tu as fait un grand livre sur l'exil intérieur et sur justement l'impuissance, l'horreur de l'impuissance.
Jean-Christophe Brianchon.
Non, c'est un joli livre parfois, mais simpliste toujours.
Bon, on a des avis un peu divergents, et je crois que je serai dans l'équipe Brianchon. Pour cette dispute. Grégoire.
Ah, c'est moi qui commence, alors.
Sauf si vous voulez pas.
Donc vous avez très bien résumé le livre. Non, moi ce que je trouve...
C'est la quatrième de couve, c'est l'auteur qui l'a résumé.
On n'a plus besoin de personne, finalement. Non, l'éditeur a très bien résumé le livre. Donc ce personnage est le grand-père d'Amigorena. Moi, je trouve que Amigorena a un grand mérite. Là, pour le coup, on est à l'opposé de l'esthétique foisonnante, virtuose de Joël Carolot. C'est une économie de moyens, un laconisme qui fait que les lettres, par exemple, qu'envoie la mère à son fils, la mère qui est prisonnière du ghetto, elle envoie quelques lettres à son fils qui reçoit de manière un peu aléatoire. Je trouve qu'elles prennent une puissance extraordinaire. Je trouve que sur la question de la culpabilité, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que Amigo Reyna n'en fait pas des tonnes là-dessus. Il a pas besoin de le surligner. On comprend très bien que son grand-père s'était exilé en Argentine, quand même en grande partie pour fuir sa mère, qui devait être quelqu'un d'un peu envahissant. Et quand il comprend qu'il a laissé tomber, qu'il n'a rien fait, lui, quand il était encore temps, pour essayer de l'exfiltrer, pour essayer de la faire venir avec lui, sans doute par une forme d'égoïsme, et pour se protéger d'elle, bah, il est dévasté, et il sera dévasté, et il va se murer dans le silence. Je trouve ça extrêmement fort, encore une fois, dit avec peu de mots, sans affaîtrie, sans effet de style. Cette écriture blanche là fonctionne très bien et très efficace. Et puis au passage, il y a le passage qu'on vient d'entendre lire là, des interrogations sur l'identité, qui est quand même la tarte à la crème aujourd'hui, le truc qui préoccupe tout le monde, qui est une espèce de virus assez compliqué à maîtriser. Et là, il en parle très très bien, je trouve, de la manière dont les nazis ont... C'est pas un scoop, c'est pas nouveau cette idée-là, mais la manière dont les nazis ont condamné les juifs à être juifs, alors qu'il y en a plein qui voulaient pas être juifs, quoi, et qui se sentaient pas plus juifs que polonais, ou plus juifs que grand et brun, ou que sportif, ou que tout ça. Donc je suis pas un inconditionnel d'Amigo Reyna d'ordinaire, je trouve ça intéressant, mais souvent un peu cérébral, et là je trouve qu'on est au plus près des sensations de ce personnage et de sa femme aussi.
Alors, pour varier un peu les points de vue, celui de Jean-Christophe Brianchon à présent sur le ghetto intérieur.
Je vais quand même démarrer sur les points d'accord qu'on peut avoir. C'est-à-dire que moi, je parlerai pas de puissance, mais en tout cas sur certains instants dans la description et dans la posture qui est celle de son personnage qui se mure dans le silence, il y a tout de même des passages qui m'ont marqué et qui resteront dans ma mémoire. Des passages. Effectivement, écrit de manière assez simple, assez sèche. Je dirais pas qu'on est face à une écriture blanche. Ça non, parce que justement cette simplicité de l'écriture nous dit toujours quelque chose et parfois quelque chose de problématique selon moi. Mais toujours est-il qu'il y a des passages qui sont assez marquants. Après, il y a plusieurs choses qui me dérangent. D'une part, je crois qu'on en a pas encore parlé des récits ou des descriptions assez factuelle de l'histoire de la Shoah telle qu'elle a été, descriptions factuelles qui sont évidemment toujours bonnes à rappeler peut-être, mais qui ici vont dans des gros traits qui, à mon sens, pour les lecteurs de Santiago Amigo Reyna, ne sont pas nécessaires, qui font s'apparenter ce livre de temps en temps à une sorte de petit précis sur la Seconde Guerre mondiale et en particulier la Shoah. C'est pas nécessaire et fait de manière là en particulier très simpliste, parce que quand je dis que le livre est simpliste parfois, je veux pas du tout me poser en surplomb quant à la posture qui est celle de Santiago Amigo Reyna, qui a connu de très près une histoire qui n'est pas la mienne, donc je veux pas dire qu'elle est simpliste de ce point de vue là. C'est en tout cas dans son rapport à ses premiers degrés à l'histoire et à ses personnages aussi, puisque ici l'écriture est elle aussi simpliste dans les liens que tissent les personnages, dans les dialogues qui sont ceux tels qu'ils sont écrits. Il y a quand même une simplicité de l'écriture, ce qui en tant que tel n'est pas un défaut, mais ici s'apparente à une forme de naïveté qui de temps en temps me faisait penser à une sorte de club des cinq des exilés en Argentine qui se retrouvent chez Tortoni pour discuter de leurs douleurs respectives.
Bon, ils font l'amour à nos camarades, moi je suis assez d'accord
leurs situations sont évidemment troublantes et déchirantes.
Relisez le club des cinq, on en reparle après.
c'est bien le club des cinq,
c'est bien, mais c'est différent.
c'est un peu différent. C'était une image, Grégoire, vous l'avez très bien.
Pas forcément à droite, mais voilà.
Bon, François Angelier, sur celui de Santiago Amigo
Reyna. Oui, le club des cinq, j'irai pas jusque-là, mais c'est la vérité. De toute façon, ces hommes-là, ils sont au café, ils sont confrontés à leur impuissance, à leur ignorance.
Ils ont l'air bêtes. Qui parle comme ça, même dans un café, même à Buenos Aires, même en 1939, 40, 41, 42.
Ouais,
c'est manifestement ce personnage tel qu'il nous, justement, tel qu'il vit cette histoire, a une profondeur bien supérieure à celle qui laisse transparaître dans ces instants-là.
Moi, c'est un livre que j'ai mis en parallèle, toute comparaison mise à part, bien évidemment, avec Bernanos.
Parce que Bernanos nous étonne de vous, François.
Ah, c'est curieux. J'aime vous surprendre. Bernanos débarque en 38, donc au Brésil, et pente jusqu'en 45. Il va, pilonner la presse, la radio, au Brésil, en Angleterre, au Canada, avec sa parole, dénonçant. Dénonçant, ma foi, ce qu'il sent en lui, de l'horreur qui est en train de se passer, alors qu'il ne sait rien. Alors qu'il apprend les choses par la presse au bistrot, ou par des dépêches, par les journaux. Donc il en sait autant que Vicente Rosenberg. Et alors Vicente Rosenberg, lui, au contraire, incarne l'attitude inverse. C'est-à-dire que lui, au contraire, il pourrait parfaitement se dire « on est en train d'assassiner ma mère », il pourrait faire des campagnes dans les journaux, des campagnes d'opinion, il pourrait se ruer à l'assaut de la société argentine en déclarant « réagissez, faites quelque chose ». Pas du tout. Il est pris dans la honte parce qu'à un moment, il déclare, et je crois que c'est le mot, tout le livre tient dans un mot, « je n'ai pas vraiment essayé de sauver ma mère ». Et tout le livre tient dans ce « vraiment ». C'est-à-dire qu'il l'a mis en garde peut-être par les lettres, il a le sentiment de ne pas avoir véritablement, quand lui, quelqu'un ne voulait pas. Et donc, et cette espèce de mal qui le ronge, au contraire de déboucher dans une sorte un grand battage de mots, le confine dans un silence, c'est le fameux ghetto intérieur où il se reclut et où il s'enferme, où il se mure et où il finit presque par mourir. Parce que le personnage, après, est totalement autiste. Et ça, je trouve. Alors effectivement, sur le plan de l'écriture, c'est peut-être pas mon idéal, loin de là. C'est vraiment par moments effectivement basique. Mais il faut arriver à loger quelque chose dans le silence d'un homme, arriver à modeler un silence. C'est pas évident. Mais je trouve cette espèce de situation dramatique. C'est un scénariste au départ, Amigo Reina. Donc il y a peut-être aussi une volonté scénarique plus que romanesque.
Mais c'est vrai que le parcours du personnage, il est absolument passionnant. Il est vraiment. Il nous questionne d'un bout à l'autre, mais c'est la façon dont les choses sont posées qui moi aussi m'a posé problème. C'est vrai que ça commence, on veut tous partir loin de notre mère, mais finalement on l'a fait venir. Bon, lui non. Enfin, ces discussions avec les amis prennent une place pour moi, explicative, articulation du récit qui quand même démontre des lacunes. Je pense que ça peut être raconté autrement, et c'est vrai que je suis d'accord, l'écriture n'est pas blanche, parce que même si je parle pas seulement des dialogues, il y a des images qui sont, alors évidemment j'ai laissé mon exemplaire du livre en régie, donc je les ai, mais on fait pas de citation à charge, donc comme ça m'évitera totalement d'en faire, mais des images qui pour le coup sont pas très fines. Alors moi j'étais un peu tiraillé à la lecture de ce livre, en me disant mais c'est pas possible avec un sujet pareil de le rendre de cette façon là justement.
Le sujet et le personnage, surtout le personnage, sont tellement grands et tellement déchirants. Moi, je trouve que la position de ce personnage et le silence dans lequel il s'enferme sont tellement déchirants qu'il était très, très difficile.
J'aurais aimé être enfermé, moi,
de la première à la dernière ligne dans son ghetto intérieur.
Ouais,
malheureusement, je me suis retrouvé aussi dans les rues de Buenos Aires. Ce qui donne au récit, comme le disait Grégoire Le Ménager, quelque chose d'intéressant, là, pour le coup, sur le plan tout à fait factuel. Moi, je n'étais pas au courant de cette réalité qui était celle des Juifs exilés en Argentine à ce moment-là de l'histoire.
François Angelier.
Je vais mettre en parallèle avec le livre de Jean-Luc Coatalem dont on a parlé récemment, La part du fils, qui offre une autre forme d'intervention. C'est-à-dire, là il enquête sur un silence, il n'enquête pas sur un martyr. Donc, les deux livres jouent ensemble. Ça peut être intéressant de les comparer.
Grégoire Le Ménager.
Mais le ghetto intérieur, on n'a pas à y être enfermé de la première à la dernière page.
On pourrait, mais ça aurait été un autre livre.
Mais non, puisque précisément
il va s'y enfermer.
Puisque précisément le ghetto intérieur, ce que nous raconte le livre, c'est comment il se met en place petit à petit, jour après jour, parce que les lettres, elles arrivent au compte-gouttes, parce qu'il y a tel article dans la presse, et que du coup, et c'est vrai que le sentiment d'impuissance de ce type qui reçoit tous les deux mois une lettre de sa mère, que sa lettre a sans doute écrite 6 mois plus tôt, il se dit qu'elle est peut-être morte entre-temps, ou elle lui dit des choses comme nous avons faim, c'est une sensation terrible, jamais je n'aurais cru qu'on pouvait avoir faim comme ça, etc. Qui sont des lettres très simples, mais qui du coup, je trouve, et vraiment à cause de cette distance-là, le fait qu'il y a un océan qui les sépare, il ne peut absolument plus rien faire. Et il se dit qu'il aurait pu faire quelque chose un peu plus tôt s'il s'y était pris un peu avant. Et ça contamine le livre, ça fait comprendre, sans, encore une fois, sans qu'Amigo Reina ait besoin de l'expliquer, ça fait comprendre pourquoi et comment ce type s'est muré dans le silence, comment il a fait subir au passage ça à sa femme et à sa famille.
Pour le coup, les dommages collatéraux sont l'histoire de Santiago Amigorena.
Ils ne sont pas négligés, toutes les cartes elles sont mises sur la table.
Il essaie de solder Amigorena depuis 20 ans dans ses livres.
Toutes les cartes sont mises sur la table, sans roulement de tambour, sans effet, parce que ça nous parle du silence, donc ça serait malvenu d'aller faire du grand style, d'aller faire tout ça, et des grands effets de manche. Et je trouve, je ne sais pas si c'est un grand livre, mais en tout cas, il fait exactement ce qu'il veut faire, je trouve. Et c'est ça qui est bien.
Mais c'est vrai que de la même façon que chez Joyce Carol Oates, comment des actions individuelles rejaillissent sur les autres, sur la famille, on retrouve cette même idée-là. François Angelier, pour
les
terminer.
Les parents mangeront les raisins verts et les enfants auront les gencives irritées. Alors chez Joyce Carol Oates, les gencives de la boxeuse sont plus
C'est de vous
irritées.
C'est de Berdanos?
Non, c'est d'un gros livre que beaucoup de gens ont lu depuis quelques millénaires.
Ah d'accord, ok. Que vous connaissez donc par cœur. Livre combien, épître?
Bon. Vous ne me risquerez pas. Oui. Non, je pense que c'est intéressant. Puis il faut voir un peu comment le ghetto intérieur prend place dans le périple autobiographique de Santiago Amigorena.
Quel sera le livre d'après?
Question qu'on se pose aussi avec Joyce Carol Oates.
Oh bon, avec elle, il est déjà fait. Il y en a trois autres depuis, donc bon. Allez, le ghetto antérieur, c'est le livre dont nous parlions. Il est signé Santiago Amigorena. Il est publié chez POL. C'est l'heure du coup de cœur de Grégoire Leménager pour un livre d'Emmanuel Lambert publié chez Stock. Le livre s'appelle Giono Furioso. Vous avez l'air emballé, Grégoire.
Si, donc, si je compte bien, on s'apprête l'année prochaine, en 2020, à commémorer le 50e anniversaire de la mort de Jean Giono, qui est quand même, pardonnez-moi de le rappeler, un des trois plus grands écrivains français du XXe siècle, ce qui n'est pas rien. Non, c'est un génie, Giono. Un livre intelligent qui nous parle d'un génie, ça mérite un coup de cœur dans la dispute sur la culture.
Il y a pire.
Par ailleurs, Emmanuel Lambert, donc c'est une dame qui organise une grosse exposition sur Giono qui va ouvrir au Mucem à Marseille la semaine prochaine, je crois.
Absolument.
Et tout en préparant cette exposition, elle s'est replongée naturellement dans Giono et elle en a fait un livre qui est très personnel et qui est en même temps est vraiment une excellente introduction, je trouve, à Giono, à sa vie, à son œuvre. Elle nous dit bien que Giono, quand on le lit trop jeune au collège, on trouve ça assez emmerdant et c'est pas tout à fait faux. Et elle nous montre bien que ce Giono n'est pas du tout le personnage qui s'est installé dans les manuels scolaires, qui s'est installé dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'elle nous montre, le titre le dit bien, Giono Furioso. Elle prend le contre-pied de l'image du pépère sympathique provençal qui raconte bien les histoires et qui nous parle des cigales, parce que c'est quand même ça la carte postale qu'il y a autour de Giono et qui est en admiration devant la nature, la beauté de la nature. Elle nous montre bien que Giono, c'est un écrivain c'est un fou furieux, c'est un écrivain qui a été traumatisé par la Première Guerre mondiale d'une manière que nous, gens de ma génération et gens de la sienne, on ne peut pas se représenter. Donc c'est quelqu'un qui a été travaillé par l'ennui absolu, un sentiment de fadeur, de désespérant pendant toute sa vie, et qu'il a compensé ça en écrivant des histoires qui sont toutes d'une violence, mais extrême. Elle nous dit bien, c'est pas l'écrivain des cigales. Elle dit qu'il y a une occurrence de cigales grillées dans Colline, je crois. Elle a cherché les cigales, il n'y a pas de cigales. Et quand il y a des animaux, tout est très, très cruel. Elle nous montre bien que c'est un écrivain du mal, que c'est un écrivain de elle parle de la part noire de Giono. Voilà. Et elle fait ressortir la part noire de Giono, et c'est quelque chose de terrible. Et elle, ça donne. Et par ailleurs, le livre est très bien écrit, je trouve très vivant, très dynamique, souvent drôle aussi. Elle est très irrespectueuse pour Giono, ce qui est la meilleure manière de rendre hommage à son génie. Et on referme ça, on n'a qu'une envie, c'est de prendre 6 mois de vacances un an de vacances pour lire et relire tout Giono, tous ceux qu'on a déjà lus, tous ceux qu'on n'a pas encore lus, parce que c'est un...
En déambulant dans le MUCEM en plus. Donc,
en faisant un tour au MUCEM à l'occasion.
Pour ça, en lisant ce livre. Giono Furioso d'Emmanuel Lambert, publié chez Stock.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Et c'est l'heure où je glisse la petite promotion pour les masterclass France Culture qui sont de retour pour préparer l'été prochain. Car oui, l'été reviendra.
L'été reviendra.
Paraît-il. deux masterclass seront enregistrées à la Maison Européenne de la Photographie ce samedi, à la MEP. Donc à 10h30, c'est Valérie Belin qui sera interrogée par Aude Lavigne. Et à midi, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec la très grande Sabine Weiss. Réservation par mail à auditeurfc@radiofrance.com. Fin de cette page promotionnelle et ouverture des pages du dernier livre à notre sommaire ce soir, celui de Siri Husvedt, Souvenir de l'avenir, publié chez Actes Sud, dans une traduction de Christine Leboeuf, un livre qui, comme son titre l'indique, se souvient d'un passé, celui de l'auteur, à son arrivée à New York, qui se rêvait un avenir d'écrivain. Le présent ouvrage va revisiter ce passé et le nourrir de son regard présent. Jusque-là, tout le monde a suivi. Oui. Eh bien, écoutez maintenant Lou Quevauvillier lire un extrait de ce livre de Siri Husvedt.
Voici bien des années, j'ai quitté les vastes plaines du Minnesota rural pour l'île de Manhattan en quête du héros de mon premier roman. À mon arrivée, en août 1978, ce héros était moins un personnage qu'une possibilité rythmique, une créature embryonnaire de mon imagination, que je ressentais comme une série de battements métriques s'accélérant ou ralentissant avec mon pas, tandis que je déambulais au hasard des rues de la ville. Je crois que j'espérais me découvrir en lui, démontrer que lui et moi étions dignes de toute histoire qui se présenterait à nous. Je ne cherchais ni le bonheur, ni mes aises à New York. Je cherchais l'aventure. Et je savais que l'aventurier doit souffrir avant d'arriver chez lui après d'innombrables épreuves sur terre comme sur mer, ou de finir éteint d'un souffle par les dieux. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant, que quand j'écrivais, j'étais écrite moi aussi. Le livre avait démarré bien avant mon départ des plaines. Les multiples ébauches d'un mystère se trouvaient déjà inscrites dans mon cerveau, ce qui ne signifiait pas que je savais ce qu'il en adviendrait. Nous marchions, mon ébauche de héros et moi, vers un lieu qui n'était guère plus qu'une fiction miroitante, l'avenir. Je m'étais donné exactement 12 mois pour écrire le roman. Si à la fin de l'été suivant, mon héros était mort-né, était mort en bas âge ou se révélait à ce point nul que sa vie ne méritait qu'un sans commentaire. En d'autres termes, s'il n'avait finalement rien d'un héros, je les laisserais en plan, lui et son roman, et me lancerais dans l'étude des ancêtres de mon rejeton défunt, ou raté, à savoir les hôtes des volumes qui remplissaient ces cités fantômes que nous appelons bibliothèques.
Premier regard sur ces souvenirs de l'avenir de Siri Husvedt, François Angelier.
À la recherche du temps éperdu.
Oh, quel talent. Jean-Christophe Brianchon.
J'aime pas tellement être sans appel sur un livre, mais je crois que la célébrité de Siri Husvedt lui permet d'avoir rien à faire de mon avis, et donc je peux dire que ce roman est illisible pour moi.
Illisible, je vous développerai. Ça a dû être long parce qu'il est quand même assez épais, lui très aussi. Long. Grégoire Leménager.
Moi, je serais beaucoup moins sévère. Moi, je trouve que c'est un peu comme une version new-yorkaise, baroque et même souvent drôle de Mémoire de fille d'Annie Arnaud. Donc, on fait des grands écarts comme ça entre Amy Gorena et Bernanos. Moi, j'en fais un entre Siri Husvedt et Annie Arnaud.
Let's go.
Bon, vous essaierez d'étayer cet avis dans un instant. Mais on commence avec François Angelier. Bon, on a compris le point de départ. Après, il y a quand même toute une question de structure dans ce livre. épais volume également.
Ouais. On passe typographie à l'appui, puisque la typographie varie tout le temps, d'un journal écrit à la fin des années 70, à une méditation sur ce journal écrite aujourd'hui, à une fiction ancienne, à des lettres, à tout un tas de choses.
Et même des dessins.
Et des dessins, et même la photo d'un masque ouais, mortuaire. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu le tournis, hein, c'est-à-dire que j'ai pas véritablement été séduit. Ah non, plutôt comme Christophe.
Jean-Christophe, on peut le rebaptiser.
Était séduit par cette espèce d'alternance permanente, enfin le côté grand 8 où on change de voix, on change de style d'écriture, ça m'a pas vraiment satisfait, j'allais dire. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est sa réflexion sur le temps, et je fais une citation. Tout livre est un repli de l'immédiat vers le réfléchi. Tout livre inclut un désir pervers de faire cafouiller le temps. Mmh. C'est peut-être la dimension la plus intéressante du livre. C'est cette volonté d'une sorte de cafouillage chronologique ou de cafouillage temporel, malgré des marqueurs très précis, qui fait qu'on a un peu le tournis. On sait plus très bien où on est. Ça, c'est intéressant. Puis il y a le portrait de assez allègre, assez dégingandé de New York, que ce soit le New York un peu, je dirais, un peu chic, ou le New York beaucoup plus prosaïque des quartiers où les étudiants trouvent à se loger. Donc voilà.
Ouais. Illisible, c'est un bien grand mot, mon cher Jean-Christophe Brianchon.
Ah oui, mais je le maintiens, illisible.
J'espère bien que vous ne changez pas d'avis en deux minutes.
Pas objectivement, mais
on va avoir
illisible
un problème.
Pour moi, en tout cas. Ouais.
Un chef-d'œuvre.
C'était pour rire.
Non, mais c'est vrai que oui, pour moi, ça a été une douleur de lire ce livre.
Ouais, vous avez pris du plaisir avec Joyce Carol Oates et vous avez souffert
voilà,
avec Cyrus. Mais,
parce que, alors, c'est amusant comme un désir de forme peut créer des choses tout à fait différentes. Parce que aussi bien dans l'un comme dans l'autre, justement, on est dans des tentatives formelles assumées et très présentes. Mais chez Cyrus Ved, ici, ça finit par donner quelque chose de très compliqué. Cette idée d'écrire pour faire cafouiller le temps, je la trouve superbe. Et l'idée même, de toute façon, d'une manière générale, de ce livre, me donnait terriblement envie. Je crois juste d'une part que j'avais envie de lire un autre livre. J'avais envie de lire une sorte de succès d'année de Viviane Gornick ou quelque chose comme ça. J'avais envie d'éambuler dans un New York de cette époque-là avec cette intellectuelle qu'elle est. Malheureusement, je n'y ai déambulé que trop peu. Et par ailleurs, la forme, comme je le disais, a pris le dessus sur le fond pour m'emmener dans un cafouillage, si ce n'est du temps, de la littérature, où je ne comprenais parfois plus grand-chose. Non seulement du fait de cet enchevêtrement des espaces-temps et des espaces littéraires, puisqu'on lit à la fois son carnet intime, que le livre qu'elle aurait voulu écrire qu'elle n'a pas écrit, que le livre qu'elle est en train d'écrire mais qui peut-être sera un autre dans le prochain. Enfin bon, donc à la fin on finit par ne plus savoir tellement ce qu'elle écrit, jusqu'à finalement ne plus tellement avoir envie de la lire, puisque c'est en plus écrit dans des phrases très très alambiquées, remplies de circonvolutions qui nous emmènent à des endroits dont on ne sait plus exactement qui ils sont, où ils sont. On est totalement perdu pour une réflexion qui finalement est assez quand même assez maigre, hein. Je veux pas jauger de la puissance intellectuelle de cet auteur, mais j'ai le sentiment qu'à chaque instant elle essaye de fuir la littérature pour s'installer dans une posture d'intellectuel qui réfléchit sur l'histoire de sa démarche. Malheureusement, peut-être que d'autres réfléchiront mieux sur sa démarche qu'elle-même. Je pense que sa démarche est peut-être plus intéressante que sa propre réflexion sur sa démarche.
Grégoire Leménager.
J'écoute attentivement tout ce que vous racontez.
Je vous remercie.
J'espère.
Nous en sommes très heureux et reconnaissants.
Je pense que c'est en partie vrai. Je pense que c'est en partie vrai. Je pense qu'il y a un moment où le livre se perd ou me perd. Vraiment. Elle retombe sur des notes qu'elle prenait quand elle avait une vingtaine d'années et tout ça. Et où elle parle de Tristram Shandy. Et elle aimait l'expression, elle avait trouvé une expression à propos du schéma temporel du roman, digressif et progressif aussi, et simultanément. Et c'est vrai que quand elle essaye de faire ça, quelque chose qui est digressif et progressif aussi et simultanément, on se perd. Et effectivement, dans le dernier tiers du livre, moi j'étais un peu largué quand elle est avec ses sorcières écoféministes avant l'heure, là. je perds pied. En revanche, je vous trouve injuste parce que je trouve que les deux premiers tiers du livre sont assez magnifiques. Alors, il y a des moments où on est perdu quand elle nous propose son brouillon de roman qu'elle essayait d'écrire à cette époque-là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on s'en fiche.
Ouais, il aurait mieux fallu l'adresser dans le tiroir, quand même.
Mais en même temps, on s'en fiche parce que je suis pas sûr qu'elle soit très fière de ces pages-là. Elle nous les montre comme des pages qu'elle écrivait à l'époque. Mmh. Et en revanche, là où moi j'ai trouvé ça très très réussi, c'est pour ça que je faisais le parallèle de manière un peu forcée avec Mémoire de fille d'Annie Arnaud. C'est cet aller-retour entre la femme qu'elle est au moment où elle écrit et cette jeune femme qu'elle était et qu'elle essaye de retrouver par le biais de l'écriture, avec la conscience très très nette qu'elle n'a plus grand-chose à voir avec cette fille-là. Et ça, je trouve que l'espèce d'enquête à laquelle elle se livre, y compris en convoquant ce brouillon de roman minable et incompréhensible, et en se replongeant dans les notes qu'elle prenait à l'époque, dans le journal intime qu'elle tenait à l'époque, en essayant de boucher les trous qu'il y a dans ce journal intime, parce qu'elle se rend bien compte qu'elle ne notait pas tout. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très fin, de très subtil, et elle le fait en plus sans se prendre plus au sérieux que ça, ce qui donne quelque chose d'assez drôle. Voilà. Et puis, pourquoi le parallèle avec Annie Arnaud? C'est aussi parce que ce livre a une dimension féministe très nette et qu'au cœur du livre se trouve le souvenir d'une expérience un peu traumatisante avec un monsieur et que le livre tourne autour de ça. Alors après, évidemment, autour de ça, elle échafaude quelque chose qui est très baroque, qui est trop baroque, mais c'est loin d'être idiot, souvent. Elle est souvent très intelligente, assez drôle, je trouve. Je trouve le livre très bien traduit. En plus, je trouve que justement cette phrase avec beaucoup de circonvolution, ça devrait être illisible et je ne trouve pas du tout que ça le soit pendant les deux premiers tiers du livre. Donc je suis partagé, mais j'encourage tout le monde à lire les 200 premières pages.
Bon, c'est pas mal. On peut le faire au poids chez le libraire.
Prorata du coup. Ouais.
Non, mais comme il reste peu de temps, je vais dire une chose qui pourrait paraître très très méchante, mais ça ne l'est pas. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait les moyens de son ambition sur ce livre-là, Cyrus Fett. Je pense que il y a une, on était étourdis et même interdits devant la maestria de Joyce Carol Oates d'arriver à faire des choses extrêmement compliquées sans qu'on comprenne comment elle les fait. Là, le problème, c'est qu'elle veut, et c'est tout à son honneur, Cyrus Fett, faire quelque chose de très compliqué. Sauf qu'on en voit beaucoup les coutures. Moi, c'est ça que
Bon,
François Joliet m'appuie, merci. Bon camarade.
C'est intéressant les coutures quand elles sont bien montées.
Non, c'est intéressant, mais sur un livre, alors pour le coup aussi long, alors moi qui m'a paru quand même très long, et avec tous ces dégagements, notamment qui a inventé l'urinoir, que Marcel Duchamp s'attribue, etc. Là, on est sur un autre livre, et dès quand elle s'aventure sur les questions d'histoire, liées à l'histoire de l'art, moi je trouve que c'est toujours un peu compliqué avec Cyrus Vett, c'est pas ce qu'elle fait, à mon sens, de mieux. Donc voilà, il y a beaucoup de livres dans ce livre, beaucoup de livres différents. Je les aime pas tous. Voilà, je pourrais dire ça aussi comme ça pour résumer tout à fait ma pensée, François Angelier.
Oui, non, tout à fait. Dans le Joyce Carol Oates, il y a un fondu enchaîné absolument parfait. On s'en rend même pas compte. On passe d'un monologue intérieur à une description de journaliste pour retourner au monologue d'un dialogue entre deux personnages, mais sans s'en rendre compte, avec une espèce d'aisance et de fluidité tout à fait fascinante. On vient même en arrière en disant mais qui parle, parce qu'on a suivi l'histoire, mais les voix ont changé, on ne sait pas. Là, par contre, il y a des charnières qui grincent, quoi. C'est quand on passe d'un manuscrit à l'autre, c'est ouf, on bute contre la marche, là. C'est attrape à la bombarde,
c'est bien. Vous avez encore réussi à dire du bien de Joyce Carol Oates dans ce moment de l'émission qui lui était plus consacré. Vous voulez dire encore?
J'ai été fasciné par la baronne d'Ada, Elsa von Freytag Lorenzhoven. Ça, j'aurais aimé que le personnage apparaisse, mais enfin bon.
Oui, mais alors qu'elle fasse un livre vraiment sur elle, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'elle, mais en même temps, enfin bon, ça vient quand même parasiter pas mal de choses.
Ben voilà. On verra le prochain.
On verra le prochain. Pour l'instant, celui de là, il s'appelle Souvenir de l'avenir. Il est signé Cyrus Vett. Traduction, effectivement, soulignant sa qualité de Christine Leboeuf. Tout ça publié chez Actes Sud. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint, qui nous rappelle plutôt la question d'hier et nous donne sa réponse.
De quel livre Georges Romero s'est-il inspiré pour l'écriture du scénario de La Nuit des Morts Vivants? Et la réponse est « Je suis une légende » de Richard Matheson.
Ce soir, à gagner, pas sûr de la réponse, mon Julien, vous réfléchissez, hein, à gagner ce soir des invitations pour le spectacle Le Présent qui déborde de Christiane Jatahi, des places à gagner pour samedi 2 novembre à 20h au 104 à Paris. On en parlera d'ailleurs bientôt dans la dispute de ce spectacle. La question, David?
De quel livre est tiré le spectacle Le Présent qui déborde?
Lointaine adaptation, on va dire. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Etoutoundoy, Lou Quevauvillier, Lucille Como, Boris Pino, Jean-Christophe Brianchon et David Dana. Prise de son ce soir, Jacques Hubert et Marie-Claire Roumabazi. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute cinéma. J'aurai la joie, comme ce soir, d'être très bien entouré. Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Thierry Chaise pour parler de Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Christine de John Carpenter, réédité en coffret ultra collector.
Magnifique édition.
Magnifique, comme toujours. Exposition Vampire de Dracula à Buffy à la Cinémathèque française. Et puis un coup de cœur de Corinne Rondeau pour Braquer Poitiers.